d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 de la Blonde FM. C'est l'émission Mode d'emploi, l'émission d'agir ensemble contre le chômage avec l'équipe d'AC. C'est aujourd'hui le 26 mars 1871, date des élections à l'Assemblée communale de Paris. Et oui, nous voilà revenus 150 ans en arrière jour pour jour, et pour commémorer l'anniversaire de la Commune. Et l'on va consacrer cette émission à la Commune, avant la Commune, pourrait-on dire, c'est-à-dire aux événements entre le 18 mars, date de l'insurrection populaire, et le 30 mars, date de la proclamation de la Commune après les élections du 26 mars, soit aujourd'hui, bien sûr. Et je suis avec Bob, grand fin connaisseur de la Commune, et Claude à la technique, c'est moi-même Ludovic au micro. Et alors, on va commencer par cette émission, par écouter la version radiophonique de l'affiche rouge de la Garde nationale. La Garde nationale qui proteste auprès de Versailles de son caractère démocratique et de sa légitimité. On l'écoute.
Affiche rouge du Comité central de la Garde nationale, 4 mars 1871. République française, liberté, égalité, fraternité. Comité central de la Garde nationale. Le Comité central de la Garde nationale, nommé dans une assemblée générale de délégués représentant plus de 200 bataillons, a pour mission de constituer la Fédération républicaine de la Garde nationale afin qu'elle soit organisée de manière à protéger le pays, mieux que n'ont pu le faire jusqu'alors les armées permanentes, et à défendre par tous les moyens possibles la République menacée. Le Comité central n'est pas un comité anonyme. Il est la réunion de mandataires d'hommes libres qui connaissent leurs devoirs, affirment leurs droits et veulent fonder la solidarité entre tous les membres de la Garde nationale. Ils protestent donc contre toutes les imputations qui tendraient à dénaturer l'expression de son programme pour en entraver l'exécution. Ces actes ont toujours été signés. Ils n'ont eu qu'un mobile, la défense de Paris. Ils repoussent avec mépris les calomnies tendant à l'accuser d'excitation au pillage d'armes et de munitions et à la guerre civile. L'expiration de l'armistice, sur la prolongation duquel le journal officiel du 26 février était resté muet, avait excité l'émotion légitime de Paris tout entier. La reprise des hostilités, c'était en effet l'invasion, l'occupation et toutes les calamités que subissent les villes ennemies. Aussi, la fièvre patriotique, qui en une nuit souleva et mit en armes toute la garde nationale, ne fut pas l'influence d'une commission provisoire nommée pour l'élaboration des statuts. C'était l'expression réelle de l'émotion ressentie par la population. Quand la convention relative à l'occupation fut officiellement connue, le comité central, par une déclaration affichée dans Paris, engagea les citoyens à assurer par leur concours énergique la stricte exécution de cette convention. À la garde nationale revenait le droit et le devoir protéger, de défendre ses foyers menacés. Levée tout entière spontanément, elle seule par son attitude a su faire de l'occupation prussienne une humiliation pour le vainqueur. Vive la République, Paris, le 4 mars 1871.
Et oui, alors, je veux bien juste faire un petit commentaire. En fait, c'est la deuxième affiche rouge hein, de l'internationale, de la garde nationale.
Après celle de rouge.
Ouais. Sachant que le rouge est la couleur des proclamations officielles, hein. Donc ils avaient quelque part déjà assumé bien plus que ce qu'on leur laissait. Et ça, elle fait suite en fait à l'entrée des Prussiens dans Paris le 1er mars, où la Fédération de la Garde nationale avait organisé elle-même la mise à l'abri des canons pour pas que les Prussiens mettent la main dessus, et l'opération Paris-Ville morte, qui fait qu'en fait, quand les Prussiens sont rentrés, ils ont trouvé des fenêtres murées de noir, avec des tentures noires, et toutes fermées, et personne dans la rue. Et ça, c'était une organisation pour ne pas que les Prussiens aient un défilé triomphant. Et effectivement, ça a été assez un flop du point de vue prussien.
Oui, et donc on voit bien sûr là l'organisation de la Garde nationale, dont les délégués étaient élus, et qui est aussi une organisation par quartier, et qui a en quelque sorte supplanté le comité de vigilance hein, qui était tenu par les internationalistes qui s'était créé un peu plus tôt, et dont on reparlera plus tard bien sûr. Et donc on va poursuivre hein, avec cette fois un extrait d'Arthur Arnoux, justement sur les débuts de la Garde nationale. Alors c'est tiré d'une histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, qui a a été écrit en 1878, un peu après les événements. Donc, Arthur Arnoux était un acteur et un témoin, hein, bien sûr, de la Commune. Juste avant la Commune, il était journaliste et cofondateur du Journal du Peuple, donc sous l'Empire, hein, qui autorisait quand même ses feuilles de chou. Et il est très vite devenu membre de l'Internationale ouvrière. Et donc, il est nommé adjoint au maire au 4e arrondissement aux élections de septembre 1870. Et il sera plus tard au Conseil de la Commune, hein, le 26 mars 1971. Et donc, son témoignage est assez lucide et assez bien écrit. Et donc, on l'écoute tout de suite.
Le 18 mars, sous l'empire de ce sentiment unanime de la population, la garde nationale s'était fédérée. C'est-à-dire qu'au lieu de rester une masse divisée, inerte, entre les mains d'un chef suprême, elle s'était donnée une organisation autonome qui reliait les compagnies et les bataillons entre eux, et en formait une vaste association soumise à ses propres règlements, gérée et dirigée par ses propres délégués. Ces délégués furent l'origine de ce que l'on appela le comité central. En effet, la garde nationale n'est pas une armée, et ses bataillons ne doivent pas être des régiments. Le citoyen, en prenant un fusil, ne cesse point d'être un homme, et c'est parce qu'il reste homme sous l'uniforme qu'il est supérieur aux soldats-machines. La garde nationale, se sentant menacée de désarmement, avait cherché le salut dans l'application du grand principe socialiste, l'autonomie et la fédération, c'est-à-dire l'indépendance du groupe et l'association libre des groupes entre eux. Elle ne voulait point surtout qu'on lui imposât un chef pris en dehors d'elle et dans l'armée, réclamant la nomination par son suffrage de tous les officiers, de tous les grades, sans exception, depuis le caporal jusqu'au général. Et elle procédait publiquement, paisiblement, à cette organisation républicaine qui, il faut bien le reconnaître, ne portait atteinte à aucune loi de l'État. N'était point une menace pour l'État si l'État ne nourrissait aucun projet liberticide ou violent contre elle. Pendant que la garde nationale, sans attendre le salut d'un gouvernement quelconque, donnait l'exemple plaisible, je le répète, du mouvement en marchant et cherchait le salut là seulement où il est, dans l'initiative privée, appuyée sur la solidarité, qui est le droit ainsi que le devoir de chaque groupe naturel, ayant des intérêts communs et une vitalité propre, le Parti révolutionnaire socialiste, de son côté, ne se sentait nullement disposé à pousser à la guerre civile. Il s'efforçait de toute façon ou de l'éviter ou d'en retarder le plus possible l'explosion. En effet, quel intérêt avait-il à une révolution violente immédiate? Jamais Paris n'avait été aussi unanimement républicain. Jamais le peuple n'avait été aussi complètement armé. Jamais la garde nationale n'avait été aussi démocratiquement organisée. Certes, Paris tout entier, pris dans ses diverses classes, n'avait pas des aspirations radicales et socialistes. Mais ils étaient au moins républicains, et se sentant menacés par l'Assemblée de Bordeaux, serraient ses forces en un seul faisceau. Cette Assemblée de Bordeaux, d'ailleurs, poussée l'infamie jusqu'à la bêtise, avait trouvé moyen de s'aliéner même la portion la plus réactionnaire de la population parisienne, par deux lois qui portaient directement atteinte au commerce de la capitale, et vouaient à la faillite ou à la gêne extrême plus de la moitié de ses négociants. Je veux parler des deux lois sur les échéances des effets de commerce et sur les termes arriérés des loyers. On sait que les hommes du 4 septembre, logiques jusqu'au bout, en même temps qu'ils repoussaient le rationnement, s'étaient contentés de suspendre les loyers, de telle sorte qu'au moment où la guerre terminée, tout le monde se trouvait plus ou moins frappé dans sa fortune et son crédit, chacun se voyait obligé de donner le plus clair de ses ressources aux propriétaires qui seuls sortaient indemnes de cette grande calamité nationale. L'Assemblée de Bordeaux, composée de propriétaires et désireuse de frapper Paris, même dans sa prospérité matérielle, même dans son industrie, qui est la gloire et une partie de la fortune de la France entière, avait rendu deux décrets qui, forçant les industriels à payer leurs termes et leurs billets sans délai, ou dans un délai dérisoire, les ruinaient de fait. On peut donc dire qu'en mars, à Paris, si tout le monde n'était point pour la Commune, personne du moins n'était pour le gouvernement de Bordeaux. Le Parti révolutionnaire se voyait donc dans une situation presque inespérée, s'appuyant sur le mécontentement universel d'une ville de 2 millions d'habitants et disposant au bas mot d'une armée de 200 000 hommes, qui avait vu le feu, qui avait fait preuve de résolution, de courage et d'énergie. Dans de semblables conditions, il devenait évident que l'Assemblée aurait à compter avec ce formidable élément, appuyé du reste des sympathies de toutes les grandes villes, qui se fussent mises, cri communion, non pas d'idées, elles y étaient déjà, mais d'action avec Paris. Qu'on put maintenir cet état de choses seulement pendant 2 mois, et l'Assemblée de Bordeaux, ayant terminé la besogne honteuse pour laquelle on l'avait nommée, c'est-à-dire la paix avec les Prussiens, n'avait plus qu'à se retirer. Elle n'eût jamais osé devant Paris armée, devant Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, etc., armée également, s'emparer du pouvoir et se déclarer constituante.
Et oui, vous venez d'entendre un extrait d'une histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, de 1860, écrite en 1878 d'Arthur Arnoux, qui était donc un membre de la Commune. Là, on voit hein, tout de suite les revendications de la Garde nationale, qui a quand même bien évolué depuis la Révolution française, puisqu'il n'y a pas de grade officiellement, hein, ou plutôt que les officiers sont élus en fait par les soldats de troupes. Alors, c'est pas une obligation qui sera tout le temps respectée, y compris par la Commune. Mais par contre, c'est une revendication qui fera florès, notamment au. Alors, c'est une petite digression, hein, mais au moment des soviets dans l'armée russe, hein, pendant la Grande Guerre, le fait qu'on puisse avoir le droit d'élire ces officiers. Et puis on a aussi, alors on entend hein, dans le texte hein, l'appel au fédéralisme, hein, c'est-à-dire à la constitution de communes, sur lequel on reviendra puisque tous les communards n'étaient pas forcément partisans d'un fédéralisme, mais on peut en quelque sorte dire que le fédéralisme leur a été imposé par les événements et qu'il était aussi une façon d'affirmer. Disons l'électorat de la ville par rapport à l'électorat des campagnes qui avait fait très clairement un choix monarchique avec des élections des années 60, de la fin des années 70. Bob, je crois que tu veux nous parler d'un texte.
Oui, je vais introduire parce que en fait, il y a la question du fédéralisme. Alors la question du fédéralisme, effectivement, divise un peu, mais par contre, il y a l'obligation pour le comité central d'agir immédiatement comme force représentative de Paris. Et d'ailleurs, les Prussiens ne s'y trompent pas parce que une série d'affiches ont été placardées avec deux dépêches placardées par le comité central de la garde nationale. Deux dépêches dont la première date du 21 mars 1871, donc à peine 3 jours après l'insurrection, où le commandant en chef du 3e corps d'armée prussien s'adresse au comité central de la garde nationale comme force dans Paris, en fait, et le reconnaît, en fait, de fait, comme étant la force maître de la ville. Donc, citoyen, le comité central a reçu du quartier général prussien la dépêche suivante. Commandant en chef du 3e corps d'armée, quartier général de Compiègne, le 21 mars 1871, au commandant actuel de Paris. Le sous-signé commandant en chef prend la liberté de vous informer que les troupes allemandes qui occupent les forts du nord et de l'est de Paris, ainsi que les environs de la rive droite de la Seine, ont reçu l'ordre de garder une attitude amicale et passive tant que les événements dans l'intérieur de Paris et le théâtre ne prendront point à l'égard des armées allemandes un caractère hostile et de nature à les mettre en danger, mais se maintiendront dans les termes arrêtés par les préliminaires de la paix. Mais dans le cas où ces événements auraient un caractère d'hostilité, la ville de Paris serait traitée en ennemie. Pour le commandant en chef du 3e corps des armées impériales, chef du quartier général, signé von Schlotthein, major général. Ce à quoi le comité central a répondu. Le délégué au comité central aux relations extérieures a répondu au commandant en chef du 3e corps des armées impériales prussiennes. Le sous-signé, délégué du comité central aux affaires extérieures, en réponse à votre dépêche en date de Compiègne, 21 mars courant, vous informe que la révolution accomplie à Paris par le comité central, ayant un caractère essentiellement municipal, n'est en aucune façon agressive contre les armées allemandes. Nous n'avons pas qualité pour discuter des préliminaires de la paix votée par l'Assemblée de Bordeaux, le comité central et son délégué aux affaires extérieures. Donc, ce qui est dit là, en fait, c'était un des espoirs des Versaillais qui s'envolent en fumée, là, parce qu'ils comptaient sur les Prussiens pour mater la rébellion en la présentant comme hostile aux Allemands. Or, cet échange montre qu'il n'en est rien et qu'en fait, le comité central de la garde nationale ne compte pas interférer dans les pourparlers de paix. Il y aura plus tard des relations entre Cluseret, général de la garde nationale, et l'état-major prussien, et elles seront toujours empreintes d'une certaine cordialité. Donc, à aucun moment, sauf à la toute fin, les Prussiens n'interviendront. Et à la fin, ils n'interviendront que pour laisser passer les armées de tiers pour encercler Paris. Mais vraiment, ils auront une attitude très pacifique par rapport à la Commune, et ils permettront même le ravitaillement par le territoire prussien de la ville de Paris, qui ne considèrent pas, eux, comme étant, qui ne considèrent plus pour leur part, comme étant en état de siège.
Oui. Alors, moi, je voudrais juste faire un commentaire général. C'était de circonstances, hein, parce que en définitive, Bismarck était quelqu'un qui, évidemment, ne portait pas dans son cœur les révolutionnaires et qui ne s'est évidemment pas fait fait prier pour laisser passer les troupes de Versailles contre la Commune. Hein. Voilà. C'est juste une remarque, mais c'est vrai que d'un point de vue tactique, Versailles a perdu le fait de pouvoir compter sur les Allemands pour mater la Commune. Ça l'aurait bien arrangé, en fait.
Oui.
Alors, on va s'écouter tout de suite ben, Eugène Potier. Eugène Potier, alors, c'est évidemment pas lui qui chante, c'est Mouloudji. Et c'est la fameuse chanson Quand reviendras-tu ? Quand reviendra-t-elle plutôt ?
J'attends une belle enfant. L'attendrai-je encore longtemps? Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps?
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Mode d'emploi, l'émission d'Agir ensemble contre le chômage avec l'équipe historique d'AC. Et nous parlons aujourd'hui du 150e anniversaire de la Commune de Paris, et notamment de la semaine entre le 18 mars et le 18 et le 30 mars, date évidemment le 18 mars de la prise de la prise des canons par la population parisienne jusqu'aux élections de la Commune le 26 et à sa proclamation le 30 mars. Alors vous venez d'entendre Eugène Potier. Ce n'est pas Eugène Potier que vous venez d'entendre, c'est Mouloudji qui chantait Eugène Potier. Donc je l'attendrai-je encore longtemps. Et on va poursuivre cette émission avec un texte qui récapitule les événements du 18 au 26 mars et qui est un texte de Paul Vapereau. Paul Vapereau était un professeur S-lettres à la faculté de Paris, à la Sorbonne, qui a prêté sa plume au journal officiel de la Commune. Bob m'a fait savoir en fait que les communards avaient mis la main sur le journal officiel avant même que la Commune soit proclamée. Et alors Paul Vapereau, bah, c'était plutôt un littéraire qui, bon, plus qu'un homme d'action, hein, donc il a fait en fonction de ses moyens. Et puis il a été arrêté par les Versaillais plus tard. Et lorsque il a été arrêté, le rapport de police a été jeune homme bien éduqué, il a été abusé. Abusé par les communards, bien sûr, hein, égaré par les communards. C'était le rapport de police, mais donc le Paul Vapereau éprouvera quand même le besoin d'aller écrire en Belgique sous un pseudo pour, disons, dissimuler ses idées un peu trop gauchistes pour le Parti de l'Ordre. Voilà, et on l'écoute tout de suite. Donc, c'est un extrait du journal officiel hein, de la Commune, nous parler de la semaine du 18 au 26 mars.
Il y a aujourd'hui un mois que le peuple a repris possession de ses droits, que l'ouvrier, le prolétaire, instrument de la richesse de ceux qui ne cherchaient qu'à les opprimer, ont brisé d'un seul coup tous leurs liens et pris dans la société le rang qui leur revenait. La rage et la crainte se partagent le cœur des auteurs de la capitulation de Paris. La vengeance serait douce, mais la fuite prudente. Ce dernier sentiment l'emporte, et ils vont se réfugier à Versailles, au sein de l'Assemblée. La peur de cette poignée de factieux, qui avait empêché les 600 signataires de la paix honteuse que nous avons subie de venir dans la capitale, réunissait à la fois chambre et gouvernement, digne réunion. Ils se sauvent, laissant les caisses vides, entraînant avec eux par la terreur les employés de tous les services publics, coupant les lignes télégraphiques, désorganisant l'administration des postes et emportant jusqu'au timbre, brûlant ce dont ils ne pouvaient se charger. Que leur importent les grands intérêts du commerce? Pendant ce temps, le comité central se met à l'œuvre, réorganise les services et toutes les administrations en quelques jours, avec un personnel entièrement nouveau et plus de 4 fois moins nombreux, fonctionne plus régulièrement et plus rapidement qu'autrefois. Dès le 20 mars, les maires de Paris se réunissent, tentent un dernier effort de conciliation, comprenant les justes griefs de Paris et redoutant la guerre civile après la guerre étrangère. Mais le héros d'Orléans, Aurèle de Paladine, repousse avec hauteur et mépris cette démarche sage et spontanée. Comme son maître, un mois avant, du haut de la tribune de Bordeaux, il s'écrie « Nous ne traitons pas avec l'émeute, la guerre civile devenait imminente ». Cependant, le gouvernement de l'hôtel de ville continuait son travail. Dès le 21, après avoir opéré sa fusion avec le comité de fédération républicaine, il lançait une admirable proclamation par laquelle il conviait les électeurs à choisir de nouveau leur chef, ayant terminé son mandat, disait-il, noble mandat, noble tâche, l'affranchissement d'une ville de 2 millions d'habitants. Cette convocation des électeurs est un coup de foudre. Les royalistes et réactionnaires, sentant qu'un gouvernement régulier va s'établir, que leurs derniers arguments de prétendue illégitimité du comité central, nommé cependant par 215 bataillons de la garde nationale, va tomber de lui-même, s'effraie et hésite sur la conduite à tenir. De son côté, la presse, qui pas plus que l'ancien gouvernement n'avait compris le but, l'importance et la grandeur de ce mouvement, mécontente d'ailleurs d'avoir été surpris et mise en défaut, la presse qui n'est plus aujourd'hui l'expression d'une opinion ou d'un parti, mais l'agent de quelques personnalités, s'irrita de ce bouleversement inattendu et fait en dehors d'elle. Elle forma une coalition universelle et le siècle, entre le pays et l'univers, signèrent cette fameuse protestation du 21 mars, où le dépit se faisait jour à chaque ligne. La population indécise de Paris attendait les événements pour prendre un parti. Lorsque le 23 mars, le comité central fait afficher et publier une lettre du commandant en chef de la 3e armée prussienne, assurant le nouveau gouvernement de Paris de sa neutralité tant que les traités seraient respectés. L'alliance de la Prusse et de Versailles, le dernier espoir des royalistes, était donc anéantie. Les indécis commencent à se rapprocher de la commune, timidement, il est vrai. Les journaux changent un peu de langage. Ce gouvernement, dont on disait si haut ne pas vouloir se préoccuper, voit discuter ses actes. Les plus violents hésitent. En même temps, on s'occupe de réorganiser activement l'armée de Paris et un décret mémorable supprime du même coup la conscription, les armées permanentes et fusionne tous les différents corps en un seul, en une seule grande famille, la garde nationale. Les chefs principaux sont choisis parmi les hommes jeunes, ardents et convaincus, et une défense terrible, une force presque invincible est organisée, l'armée des citoyens qui veulent défendre leur droit. Dans l'intervalle, le mouvement se propage en province. Les villes de Marseille et de Lyon envoient des délégués chargés d'annoncer leur adhésion au nouveau gouvernement que Paris s'est donné. Des manifestations sont signalées dans tous les grands centres de province. Au milieu de ces événements, les élections ont lieu. En dépit de toutes les manœuvres des partis coalisés, la commune est établie et le 28 mars, date mémorable, a lieu sur la place de l'Hôtel de Ville, la fête la plus belle et la plus solennelle qu'il soit donnée à l'homme de contempler et à l'histoire d'enregistrer.
Et oui, vous venez d'entendre Paul Vapereau, hein, scribe du journal officiel de la Commune de Paris, nous raconter la semaine du 18 au 26 mars. Alors on voit hein, tout d'un coup l'administration filer vers Versailles, enfin en tout cas leurs principaux responsables et le comité de la garde centrale de la garde nationale devoir assumer en fait la direction de Paris et puis aussi une médiation hein, des maires d'arrondissement, une tentative de médiation avec Versailles. Bob nous en dira un peu plus tout à l'heure sur la question. Et puis il y a aussi cette question de la légitimité de la garde nationale puisque on est encore en guerre, enfin même si l'armistice s'est signé, mais il y a un souci quand même par rapport à ça, donc ce qui va nous conduire aux élections. Et puis il y a quand même des gens qui sont mécontents. Et oui, parce qu'il y a tout de même en France un parti de l'ordre. Et Bob, je crois que sur la question, c'est toi le spécialiste du
oui,
parti de l'ordre.
C'est ça, tout à fait. Alors je vais montrer deux visages du parti de l'ordre. Alors dans la première, c'est le parti de l'ordre qui sème le désordre. Puisque, en fait, de manière à prévenir les élections qui devaient initialement se dérouler le 22, le Parti de l'Ordre, justement, enfin ceux qui restent à Paris, organisent une grande manifestation le 22 mars même, au départ donc du Nouvel Opéra, qui est l'Opéra de Paris actuel, hein, pas l'Opéra Bastille, mais celui qui a été construit par Napoléon III. Et donc, ils partent du Nouvel Opéra pour manifester et aller vers l'Hôtel de Ville. Qu'ils souhaitent peut-être envahir, on ne sait pas trop, mais en tout cas, la manifestation dégénérera et ce sera un coup d'arrêt, en tout cas, aux manigances, un coup d'arrêt temporaire aux manigances des forces de l'ordre dans Paris. Et alors, nous avons ici un excellent compte-rendu des événements effectués par le comité central et publié au journal officiel du 25 mars. Du 25 mars, où le comité central revient sur les événements, et je vais donc vous lire cet article. Paris, le 24 mars 1871. Le comité central a ordonné une enquête sur les événements qui se sont passés place Vendôme dans la journée du 22. Le comité n'a pas voulu publier un récit immédiat, qui aurait pu être accusé de parti pris. Voilà les faits, tels qu'ils résultent des témoignages produits dans l'enquête. À 1h30, la manifestation qui se massait depuis midi sur la place du Nouvel Opéra s'est engagée dans la rue de la Paix. Dans les premiers rangs, un groupe très exalté, parmi lesquels les gardes nationaux affirment avoir reconnu messieurs de Heckeren, de Coetlegen et Henri de Pen, ancien familier de l'Empire, agitaient violemment un drapeau sans inscription. Arrivé à la hauteur de la rue Neuve-Saint-Augustin, la manifestation a entouré, désarmé et maltraité deux gardes nationaux détachés en sentinelles avancées. Ces citoyens n'ont dû leur salut qu'à la retraite et sans fusil, les vêtements déchirés, ils se sont réfugiés sur la place Vendôme. Aussitôt, les gardes nationaux, saisissant leurs armes, se sont portés immédiatement en ordre de bataille jusqu'à la hauteur de la rue Neuve des Petits Champs. La première ligne avait reçu l'ordre de lever la crosse en l'air si elle était rompue et de se replier derrière la troisième. De même pour la seconde. La troisième devait croiser la baïonnette, mais recommandation expresse était faite de ne pas tirer. Le premier rang de la foule, qui comptait environ 800 à 1000 personnes, se trouve bientôt face à face avec les gardes nationaux. Le caractère de la manifestation se dessine dès lors nettement. On crie « À bas les assassins ! À bas le comité !» Les gardes nationaux sont l'objet des plus grossières insultes. On les appelle « Assassins ! Lâches ! Brigands !» Des furieux saisissent les fusils des gardes nationaux. On arrache le sabre d'un officier. Les cris redoublent. On a affaire non à une manifestation, mais à une véritable émeute. En effet, un coup de revolver vint atteindre à la cuisse le citoyen Maljournal, lieutenant d'état-major de la place, membre du comité central. Le général Bergeret, commandant la place, a couru au premier rang dès le début, fait sommer les émeutiers de se retirer. Pendant près de 5 minutes, on entend le roulement du tambour. 10 sommations sont faites. On n'y répond que par des cris et des injures. 2 gardes nationaux tombent grièvement blessés. Et l'article poursuit. Cependant, leurs camarades hésitent et tirent en l'air. Les émeutiers s'efforcent de rompre les lignes et de les désarmer. Des coups de feu retentissent et l'émeute est subitement dispersée. Le général Bergeret fait immédiatement cesser le feu. Les officiers se précipitent, joignant leurs efforts à ceux du général. Cependant, quelques coups de fusil se font entendre encore dans l'intérieur de la place. Il n'est que trop vrai que des maisons ont attiré sur les gardes nationaux. 2 d'entre eux ont été tués. Les citoyens Valin et François, appartenant au 7e et 215e bataillon. 8 ont été blessés. Ce sont les citoyens Maljournal, Cochet, Miche, Ancelot, Légat, Rayère, Train et Laborde. Le premier des morts, porté à l'ambulance du Crédit Immobilier, est le vicomte de Molinet, atteint à la tête et par derrière au premier rang de l'émeute. Il est tombé au coin de la rue de la Paix et de la rue Neuve des Petits Champs, la face contre terre, du côté de la place Vendôme. Il est de toute évidence que le vicomte de Molinet a été frappé par les émeutiers, car s'il eût été atteint en fuyant, le corps serait tombé dans la direction du Nouvel Opéra. On a trouvé sur le corps un poignard fixé à la ceinture par une chaînette. Un grand nombre de revolvers et de cannes à épée ont été ramassés dans la rue de la Paix et portés à l'état-major de la place. Le docteur Ramloff, ancien chirurgien-major du camp de Toulouse, domicilié 32 rue de la Victoire, et un certain nombre de médecins accourus ont donné leurs soins aux blessés et signé les procès-verbaux. Les valeurs trouvées sur les émeutiers ont été placées sous enveloppe scellée et déposées à l'état-major de la place. C'est grâce au sang-froid et à la fermeté du général Bergeret, qui a su contenir la juste indignation des gardes nationaux, que de plus grands accidents ont pu être évités. Le général américain Sheridan, qui, d'une croisée de la rue de la Paix, a suivi les événements, a attesté que les coups de feu ont bien été tirés par les hommes de la manifestation. Alors voilà le compte-rendu un peu qui est fait par le comité central de la garde nationale. Alors évidemment, on peut dire quand même qu'il est partial, mais néanmoins il y a un souci du détail, il y a un souci de l'enquête et des sources croisées, notamment en citant Sheridan, qui sera un témoin de toute la commune, en fait. Hein.
Oui, c'est très étonnant, Sheridan, hein, donc, qui est ce général... Voilà, et donc qui a participé à la guerre de sécession, hein, oui. Me semble-t-il. Et voilà.
Donc, Bergeret était donc commandant de la place, ce qui signifiait qu'il avait également des forces de police sur une ville assiégée, hein, comme Paris, et donc ce qui explique son rôle lors de cette émeute. Alors, c'est une tentative, on va dire, à moitié aboutie, à moitié ficelée, mais par des gens qui sont un peu pressés. De renverser une dernière fois la vapeur avant les élections, mais elle échoue piteusement, comme on voit. Il y en a une autre dont on parlera plus tard, mais grosso modo, c'est les derniers soubresauts, on va dire, du Parti de l'Ordre dans Paris. Hein. Très vite, ça ne sera plus que des petits complots souterrains et des choses comme ça. Mais c'est la dernière fois, on va dire, que le Parti de l'Ordre se mobilise. D'accord. Visiblement dans Paris pour contrer la commune.
Alors avant de t'entendre hein, donner la suite avec un article hein, du père Duchesne qui était peut-être un peu moins objectif. Hein. C'est juste cette histoire en fait. Il n'y a d'abord pas eu d'élection hein, pour la municipalité pendant depuis la proclamation de la République jusqu'à une première manifestation. on va dire, des quartiers populaires devant l'hôtel de ville, une manifestation qui est à la fois contre les capitulars, pour les élections, etc. Et puis, le gouvernement provisoire s'est défilé dans un premier temps, avant de faire un plébiscite pour oui ou non au soutien au gouvernement provisoire. Donc, oui ou non, hein, vous voyez la question. Et la majorité des personnes ayant répondu oui, la majorité des Parisiens ayant répondu oui, ils ont ensuite organisé des élections. Alors, donc, il y a cette question, hein, de l'illégitimité des élections, de ces premières élections, puisque, en fait, le mandat qui est confié est un mandat qui n'a pas vraiment de. Qui est très, très limité, en fait, hein, le mandat des édiles parisiens à ce moment-là.
Tout
Bob?
à fait. Tout à fait, ils sont en fait on élit un conseil municipal par arrondissement, mais le maire de chaque arrondissement est élu est désigné pardon par le gouvernement. Hein, c'est la méthode de Napoléon III, quoi, tout
Bonaparte, voilà,
simplement.
Bonaparte, tout à fait. Et d'ailleurs, je crois que les villes de plus de 20 000 habitants n'avaient pas de maire sous Napoléon Bonaparte. Voilà. Donc voilà, d'où la contestation de la légitimité de ces élections-là. Et donc, je te laisse poursuivre, puisque
Oui.
avec le.
Alors évidemment, cette tentative assez désastreuse comment dire, des forces de l'ordre, des forces, on va dire non, des forces du parti de l'ordre à Paris entraîne des réactions assez virulentes de la plupart des journaux communards, et notamment, bien entendu, le Père Duchesne, qui le 3 Germinal en 79, donc dans son édition du 24 mars, laisse éclater sa grande colère. La grande colère du Père Duchesne contre les jean-foutre de réactionnaires qui sèment le désordre dans Paris. Avec sa grande allocution aux bons bougres du comité de l'hôtel de ville pour qu'ils maintiennent l'ordre contre la poignée de factieux qui siègent à Versailles sous le nom d'Assemblée nationale. Enfin, mes bougres, nous y sommes! Nous sommes tout simplement en pleine révolution. Cette fois-ci, ça y est, il n'y a pas à dire, ça y est. Le tout est d'y rester. Et pour cela, le gouvernement doit prendre une attitude. Il plaît au Père Duchesne de se servir des expressions qu'ont employées les hypocrites qui rendaient par leur hypocrisie même un hommage à la vertu du peuple. Les circonstances sont graves, citoyens. Les circonstances veulent des hommes de braves bougres qui ne se laissent émotionner ni par les timidités de leur cœur, ni par les menaces de la réaction. Ne rien craindre, voilà la devise. Ne rien craindre. En avant, en avant, en avant. Nous sommes la tête de la France. Nous sommes le bras de la Révolution. Nous sommes la République en marche à la conquête de l'humanité. En avant. Ah, l'œuvre est belle. Bien commencée, foutre. Et le Père Duchesne espère que cette fois, le peuple ne va pas être comme toujours jusqu'ici, foutu dedans par les misérables qui n'aspirent qu'à faire tirer sur les patriotes. Allons, mes braves bougres, nous avons tous les atouts dans notre jeu. Nous avons pour nous le droit et la force. Avec cela, nous pouvons marcher. Mais il faut prendre une attitude et ne pas reculer. Ce ne sont pas les ennemis qui nous manquent. Est-ce que vous seriez assez lâches pour fuir devant eux? En avant! Citoyens, nous avons en ce moment contre nous tous les ennemis de la liberté, du travail et de la patrie, tous les esclaves, tous les fainéants et tous les traîtres. Prenons une attitude. Le comité de l'hôtel de ville, la garde nationale qui s'est montrée si patriotique, le brave bougre de citoyen Duval, désigné à la ci-devant préfecture de police, ont le devoir de maintenir l'ordre dans la cité contre les manœuvres de la réaction et de prendre les mesures nécessaires pour déjouer les trucs des factieux de Versailles qui se prétendent les élus de la nation. Prenons une attitude. De l'énergie, de l'énergie. Le Père Duchesne a de nombreux amis parmi les membres du comité de l'hôtel de ville. Aussi se croit-il le droit de leur donner un conseil. Depuis avant-hier, il se produit dans la cité des manifestations qui se qualifient manifestations du parti de l'ordre. À la tête de ces manifestations se trouvent les jean-foutre nommés Gaston Jolivet et le cadet de Hecqueren, célèbre par ses amours de son père. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi des manifestations en faveur de l'ordre? Est-ce que nous ne sommes pas l'ordre? Est-ce que nous ne sommes pas l'immense majorité de la garde nationale? Est-ce que l'infâme gouvernement de la défaite nationale n'a pas été chassé par les indignations conjurées du peuple et de la bourgeoisie réconciliée? Des manifestations en faveur de l'ordre. Quels sont donc les désordres qui se sont produits? Et le Père Duchesne de conclure que le garant de l'ordre aujourd'hui, c'est lui. Qu'on se le dise.
Oui, alors il y a vraiment des accents de 1789 hein, dans ce. Et c'est un thème qui revient énormément pendant toute la Commune. Parce qu'il y a, je crois que c'est Gérard Noriel hein, qui parle du sursaut du soldat citoyen, du citoyen sauveur de la patrie qui prend les armes, et donc qui exige une mobilisation constante. hein, pour que la révolution ne tombe pas et qu'on ne trahisse pas la révolution. Alors il y a une allusion intéressante aussi aux bourgeois et aux ouvriers qui sont réconciliés. Et donc c'est très intéressant parce qu'effectivement, comme l'a dit un des textes, l'Assemblée de Bordeaux avait ruiné le petit, les libéraux parisiens, les petits hommes d'affaires parisiens, en exigeant le remboursement immédiat de toutes les dettes, enfin de tous les effets de commerce, donc de toutes les créances, et aussi des loyers, des dettes de loyers, et ce faisant, effectivement, tout Paris, qui avait quand même connu un an de siège, enfin un peu moins d'un an de siège, était ruiné de facto. Donc, bien entendu, il y a eu effectivement une collision d'intérêts évidente entre toutes ces classes, ce qui permet une atmosphère révolutionnaire. Voilà, alors on va s'écouter le chant des ouvriers, hein, qui est de Pierre Dupont et qui a été écrit en 1846, c'est-à-dire nettement avant la Commune.
Nous, dans la lampe, le matin, au clairon du coq se rallume. Nous vivons, vivons, allez.
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 de la bande FM et c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires avec l'équipe historique d'AC. Et en ce jour du 26 mars 2021, on commémore les 150 ans de la Commune, les 150 ans de la Commune, de la semaine du 18 mars du 18 au 30 mars. De la prise des canons par le peuple à la proclamation de la Commune. Et on en était à la tentative de la réaction. Or, oui. Je crois bien que ce n'est pas fini, car tu vas nous parler d'un certain Loustic.
Ah, oui, Loustic, tout oui, à fait. Alors, après les émeutes donc, du 22, il y a un répit pour les communards pendant lesquels les informations continuent à circuler. Et en fait, ça circule même pas mal, puisqu'ils prennent le contrôle aussi donc, des télégraphes, où ils mettent un homme à eux, qui permet de rouvrir les communications télégraphiques pendant un temps avec le reste de la France, au moins jusqu'à l'élection de la Commune, comme on le verra. Mais entre-temps, les forces du parti de l'ordre n'ont pas tout à fait dit leur dernier mot, et notamment un personnage un peu interlope vient intervenir le 25 mars pour une dernière tentative de renverser la vapeur. Il s'agit du vice-amiral Cesset, qui est élu à la Chambre de Versailles, hein, et qui est un ex-bonapartiste, et qui donc n'a aucune prétention normalement à parler pour la Commune de Paris, hein, ça c'est clair. Mais néanmoins, il fait une tentative un peu d'esbrouf, après avoir déclaré qu'il retournait à Paris, donc à Versailles, après avoir déclaré qu'il retournait à Paris pour tenter de remettre de l'ordre, il fait afficher partout le 24 mars une affiche dans Paris, où il dit aux gardes nationaux, des véritables républicains, qu'il dit que toutes les franchises municipales et toutes les demandes de la commune, de la garde nationale, ont été approuvées à Versailles, ce qui est absolument faux. Et il se targue de rassembler à la mairie du 2e arrondissement les forces des gardes nationales encore loyales à Versailles, encore loyales au gouvernement. Et donc, c'est ce qu'il fait le lendemain, le 25. Il va se réfugier donc à la mairie du 2e, qui est tenue encore par une municipalité réactionnaire. C'est la mairie de la place de la Bourse, hein, faut le dire. Donc, c'est sans surprise. Et donc, il récupère plusieurs mitrailleuses, hein, qui sont des gros engins à l'époque. Hein, donc, c'est pas rien. C'est comme récupérer des pièces d'artillerie. Et il s'enferme dans la mairie du 2e en proclamant qu'il paiera plus cher que la solde normale des gardes nationaux ceux qui se joindraient à lui. 3 francs et demi. Donc, cette tentative échoue elle-même piteusement. Et en fait, c'est le dernier coup de force du parti de l'ordre. Là, vraiment le dernier. Avec la tentative de cesser de se barricader dans la mairie du 2e, il est rapidement encerclé par les bataillons de la garde nationale loyales au comité central, et même ces bataillons qu'il avait réussi à rassembler finissent par se rallier au comité central, et il perd ses dernières troupes dans cette non-escarmouche, puisque aucun coup de feu n'aura été tiré, il est contraint d'évacuer et de se réfugier de nouveau à Versailles. Il ne remettra plus les pieds à Paris. Voilà, c'était la fin de la tentative pitoyable du contre-amiral Cesset.
Ils l'ont quand même laissé filer, c'est par bonté d'âme ou il a réussi à s'échapper.
Une chose qui a été reprochée au comité central de la garde nationale est effectivement d'avoir laissé filer tous les pro-versaillais. La logique derrière était qu'on sera mieux avec ces gens-là en moins dans Paris. Mais comme on l'a vu, il y a eu une véritable tentative de sabotage. Ils sont partis avec beaucoup de papiers, ils sont partis avec des timbres officiels, ils sont partis avec des tampons officiels, ils sont partis avec presque tout ce qui pouvait servir soit à payer la solde, soit à entretenir la ville, dans une véritable tentative de sabotage. Mais qu'à cela ne tienne, il y a aussi des bonnes nouvelles qui arrivent. Car effectivement, le 25 mars, Amouroux, donc membre du comité central, qui a été envoyé en province pour rallier les villes, revient avec une très bonne nouvelle, et donc qui est publiée dans le journal officiel du 25 mars 1871. Ainsi, comité central. Le comité central s'empresse de transmettre à la population de Paris la dépêche suivante d'un de ses délégués à Lyon. Lyon, le 24 mars, 1871, aux membres du comité central à Paris. Nous sommes arrivés à Lyon et immédiatement introduits à l'hôtel de ville. Nous avons dû paraître au balcon aux acclamations de plus de 20 000 citoyens. 18 bataillons sur 24 sont heureux de se fédéraliser avec les 215 bataillons de Paris. Pas une goutte de sang versé grâce aux mesures préservatrices prises par la commission provisoire. Le gouvernement de Versailles n'est pas reconnu. En somme, la cause du peuple triomphe. Et Paris seul est reconnu comme capitale pour la délégation Amouroux. À l'appui de cette lettre, Lyon envoyait un exemplaire de l'affiche suivante. République française, commune de Lyon, le comité démocratique de la garde nationale du Rhône, le comité central démocratique de l'alliance républicaine du Rhône aux Lyonnais. Citoyens, la commune vient d'être proclamée du haut du balcon de l'hôtel de ville aux applaudissements frénétiques de la population entière. Notre ville qui, la première au 4 septembre, a proclamé la République, ne pouvait tarder d'imiter Paris. Honneur à cette courageuse et vaillante population lyonnaise. Elle vient de concourir au rétablissement de la liberté et de la vraie République. Elle vient de reprendre la direction de ses intérêts trop longtemps absorbés par le pouvoir central. Avec la commune, citoyens, nous aurons un pouvoir unique qui concentrera dans ses mains la force armée et la police municipale. Avec la commune, les impôts s'allégeront, les deniers publics ne seront plus gaspillés, les institutions sociales attendues avec une légitime impatience par les travailleurs seront fondées et mises en pratique. Une ère nouvelle, citoyens, commence pour notre cité. Bien des souffrances et des misères seront soulagées, en attendant que disparaisse la hideuse plaie sociale appelée paupérisme. Que les habitants restent calmes et dignes dans leur victoire, qu'ils aient confiance et bientôt l'ordre et la prospérité ne seront plus de vains mots. Par notre attitude, prouvons aux ennemis de la vraie liberté que le peuple ne confond jamais cette sublime institution appelée commune avec les débordements dont il se plaise à l'accuser. Bientôt, nos détracteurs eux-mêmes seront contraints de reconnaître que le peuple est digne d'être régi par des institutions républicaines. Soyons unis et restons amis, armés pour soutenir la République une et indivisible. Vive la Commune, vive la République, pour le comité de la garde nationale et pour le comité démocratique de l'Alliance républicaine.
Alors, Oui, juste avant de s'écouter le drapeau rouge, il faut rappeler que la Commune avait commencé plus tôt à Lyon, je crois dès septembre 70, et notamment on se souvient de Bakounine qui rentre à l'hôtel de ville lyonnais avec quelques militants pour déclarer la Commune insurrectionnelle. Et c'était une Commune qui n'avait duré que 3 jours, malheureusement, saurait-on dire, puisque finalement le personnel politique a manqué peut-être au moment justement de la Commune parisienne, puisqu'il était déjà en prison. Et donc, du coup, la Commune lyonnaise n'a pas duré très, très longtemps, un peu moins que…
Alors, il s'agit de la deuxième, en fait.
Oui.
C'est-à-dire que la Commune dont tu parles, effectivement, ça a été une vague proclamation par Bakounine, qui malheureusement a agi peut-être un peu prématurément, puisqu'il s'est fait arrêter. Et suite à son arrestation, par contre, la Commune a été reproclamée, donc à Lyon, comme on le voit.
D'accord.
L'acte parisien a donné un nouveau coup de foudre au communard de province.
Un nouveau point de départ, oui. Alors, on s'écoute tout de suite le drapeau rouge et puis on reprendra avec les élections.
Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur main. Osez le défier, notre superbe drapeau. Rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier.
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 de la bande FM, et c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission d'Agir ensemble contre le chômage, c'est l'équipe historique d'AC. Et donc, on commémore la commune. Hein. Alors, vous venez d'entendre Le Drapeau Rouge, c'était une chanson de Pierre Brousse qui a été écrite en 1877, et c'est sur une musique du folklore suisse. Et donc on va conclure cette émission avec un appel au vote qui est affiché dans Paris et qui est signé par les délégués de l'intérieur Antoine Arnoux et Édouard Vaillant, vote qui va être suivi de la proclamation de la commune le 30 mars et donc l'élection d'une assemblée communale qui prendra toutes les décisions dans les 2 mois à venir. On écoute tout de suite le journal officiel et on écoutera tout de suite après Paul Vapro, une histoire populaire et parlementaire de la commune.
Citoyens, demain aura lieu l'élection de l'assemblée communale. Demain, la population de Paris viendra confirmer de son vote l'expression de sa volonté, si ouvertement manifestée le 18 mars, par l'expulsion d'un pouvoir provocateur qui semblait n'avoir d'autre but que d'achever l'œuvre de ses prédécesseurs et de consommer ainsi, par la destruction de la République, la ruine du pays. À ceux que nos désastres avaient rendus maîtres de nos destinées et qui s'étaient donné pour tâche d'annuler sa vie politique et sociale, Paris a répondu par l'affirmation du droit imprescriptible de toute cité, comme de tout pays, de s'administrer soi-même, de diriger le fait de sa vie intérieure, municipale, laissant au gouvernement central l'administration générale, la direction politique du pays. Il n'y a pas de pays libre là où l'individu et la cité ne sont pas libres. Il n'y aurait pas de république en France si la capitale du pays n'avait pas le droit de s'administrer elle-même. C'est ce droit qu'on oserait contester aux plus modestes bourgades, que l'on ne veut pas reconnaître à Paris, parce que l'on craint son amour de la liberté, sa volonté inébranlable de maintenir la république, que la révolution communale du 18 mars a affirmé et que vous confirmerez par votre vote de demain. 8 jours se sont écoulés depuis que Paris s'est délivré, depuis que la grande cité est maîtresse d'elle-même, et 8 jours de liberté sans contrainte ont montré à tout juge impartial de quel côté était l'amour de l'ordre, la conscience du droit. Né de la revendication de justice qui a produit la révolution du 18 mars, le comité central a été installé à l'hôtel de ville, non comme gouvernement, mais comme la sentinelle du peuple, comme le comité de vigilance et d'organisation tenu de veiller à ce qu'on n'enlève pas au peuple, par surprise ou intrigue, le fruit de sa victoire, chargé d'organiser la manifestation définitive de la volonté populaire, c'est-à-dire l'élection libre d'une assemblée qui représente non pas seulement les idées, mais aussi les intérêts de la population parisienne. Le jour même où l'assemblée communale sera installée, le jour où les résultats du scrutin seront proclamés, le comité central déposera ses pouvoirs et il pourra se retirer fier d'avoir terminé sa mission. Quant à Paris, il sera vraiment l'arbitre de ses destinées. Il aura trouvé dans son assemblée communale l'organe nécessaire pour représenter ses intérêts et les défendre en face des intérêts des autres parties du pays et devant le pouvoir national central. Il pourra résoudre lui-même, après enquête et débats contradictoires, sans immixtion injuste et violente, où les notions de droit et de justice sont impudemment violées au profit des factions monarchiques, ces questions aussi complexes des intérêts communaux et privés, devenues plus complexes et plus délicates encore après la longue épreuve qu'il vient de subir si courageusement pour sauver le pays. Il pourra enfin décider lui-même quelles sont les mesures qui permettront, ou plutôt, sans froissement et sans secousse, d'amener la reprise des affaires et du travail. Une république ne vit ni de fantaisies administratives coûteuses, ni de spéculations ruineuses, mais de liberté, d'économie, de travail et d'ordre. La République doit établir l'harmonie des intérêts et non les sacrifier les uns aux autres. Les questions d'échéance de loyer ne peuvent être réglées que par les représentations de la ville, soutenues par leurs concitoyens, toujours appelées, toujours entendues. Pas plus que tout ce qui regarde les intérêts de la cité, elles ne peuvent être abandonnées aux caprices d'un pouvoir qui n'obéit le plus souvent qu'à l'esprit de parti. Il en est de même de la question du travail, seule base de la vie publique, seule assise des affaires honnêtes et loyales. Les citoyens qu'une guerre engagée et soutenue par des gouvernements sans contrôle a arrachés au travail ne peuvent être plongés par une brusque suppression de la solde dans la misère et le chômage. Il y a une période de transition dont on doit tenir compte, une solution qui doit être cherchée de bonne foi, un devoir de crédit au travail qui arrachera le travailleur à une misère immédiate et lui permettra d'arriver rapidement à son émancipation définitive. Ces questions et bien d'autres devront être résolues par votre conseil communal et pour chacune d'elles, il ne pourra se décider que suivant les droits de tous, car il ne se prononcera qu'après les avoir consultés, car responsable et révocable, il sera sous la surveillance continuelle des citoyens. Enfin, il aura à traiter des rapports de la cité avec le gouvernement central, de façon à assurer et garantir l'indépendance et l'autonomie de la commune. au vote, donc, citoyens, que chacun de vous comprenne la grandeur du devoir qui lui incombe, de l'acte qu'il va accomplir, et qu'il sache qu'en jetant dans l'urne son bulletin de vote, il fonde à jamais la liberté, la grandeur de Paris. Il conserve à la France sa République, et fait pour la République ce que naguère il faisait si vaillamment devant l'ennemi, son devoir. 25 mars 1871, et les délégués de l'intérieur, Arnaud et Vaillant. Proclamation de la Commune. Cette soi-disant poignée de factieux, composée d'environ 300 000 citoyens en armes, était réunie là. De toutes parts s'élèvent les cris de « Vive la Commune !» Le canon retentit, et les membres du comité central viennent, en proclamant les noms des membres de la Commune, remettre leur pouvoir et la direction du gouvernement entre les mains des nouveaux élus du peuple. Les premiers actes de la Commune, inspirés par l'intérêt de la majorité du peuple, prouvèrent de nouveau que les longues discussions auxquelles les assemblées précédentes nous avaient habitués étaient aussi futiles qu'elles étaient prétentieuses. Les décrets sur les loyers, sur les objets engagés au mont-de-piété, parurent dès le 30 mars, le grade de général supprimé, le traitement maximum des employés fixé à 6 000 francs. Ces mesures prises si rapidement étonnèrent les indifférents de Paris et terrifièrent les fugitifs de Versailles. Les propriétaires étaient scandalisés. Quant aux soi-disant républicains du 4 septembre, la fixation du maximum des traitements à 6 000 francs leur paraissait une mesure incompréhensible. Les armes seules pouvaient rétablir l'ordre à Paris. Il fallait à tout prix se délivrer d'un gouvernement qui entrait dans une telle voie. Cependant, les députés de Paris hésitaient. Quelques-uns préférèrent se retirer complètement de la lutte engagée, d'autres restèrent à Versailles, reniant ceux qui les avaient nommés. D'autres enfin, reconnaissant les justes réclamations de Paris et le mauvais vouloir du gouvernement fugitif, vinrent se rallier au nouveau pouvoir.
Et oui, cette émission se termine. Merci d'avoir suivi et à nous d'y avoir participé. Alors je tenais à remercier spécialement les éditions Dithmar qui sont toujours en pointe sur les bouquins sur la Commune. On peut trouver notamment l'anthologie de la Commune de Paris, mais aussi une histoire complète de la Commune en 5 tomes, je crois. Je crois que c'est l'œuvre la plus complète jusqu'à maintenant. Et mais je tenais aussi à remercier le Père Duchesne et le Cri du Peuple, sans qui nous ne pourrions pas dire ces textes aujourd'hui. Et donc merci à toi Bob d'avoir participé à l'émission, merci à Claude d'avoir fait la technique. Et donc, Jean, on se retrouve eh bien, dans un mois, mais peut-être avant, hein, pour vous parler de la Commune notamment, il y a les chroniques de l'agenda qu'on peut écouter en début d'émission, hein, qui sont des recensions des articles de presse de l'époque. Merci à vous.
À tous les peuples de la terre, porte la paix et le bonheur. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est l'envie au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe.